Donc, on va parler d'Evanégyre, on va s'intéresser à l'univers de Lionel. Alors, petite précision, c'est un café littéraire qui est une première aux Imaginales, mais c'est un café littéraire qui a vocation à se pérenniser, c'est-à-dire que l'idée de Stéphanie Nico, c'est que chaque année, un auteur vienne vous parler de son univers, vienne vous expliquer comment il travaille, comment il crée cet univers de fantasy. On a des petites surprises pour les années à venir, donc on ne va pas en parler ici, mais je pense que vous aurez des informations assez rapidement sur la question. En tout cas, c'est Lionel qui s'y colle pour la première, avec en plus un univers très riche, on verra qu'on va pouvoir aborder par différents axes. On va l'aborder d'abord simplement, on va l'aborder sur un plan purement, j'allais dire, géographique. Qu'est-ce qu'Evanégyre ?
Evanégyre, c'est une planète, tout simplement. J'ai été beaucoup, toujours très impressionné, je pense qu'on l'est tous quand on écrit, quand on est dans la littérature de l'imaginaire, par le travail des grands créateurs de monde et notamment par la notion du planète opéra. C'est-à-dire avoir une planète, un monde qu'on développe et qu'on approfondit et qu'on étudie à travers les lieux. Et moi, ce qui m'intéressait encore davantage, c'est à travers le temps, à travers les âges et comment éventuellement, par exemple, un hasard peut devenir, peut éventuellement être mythologisé, peut devenir une injonction, peut devenir un mythe, peut devenir une religion, peut devenir un tabou, etc., au fil des ans. Donc Evanégyre, simplement, c'est une planète, mais sur dont la trame narrative, en tout cas pour ce qui est publié, couvre à peu près pour l'instant 2000 ans, sachant qu'il y a d'autres époques encore à explorer.
Alors c'est ça qui est intéressant aussi, et sans doute c'est ça aussi qui donnera tout l'intérêt à ce café littéraire quand il sera bien installé, c'est qu'on va voir aussi ces différences-là apparaître entre vous les uns et les autres. On a les auteurs de cycles qui finalement créent une histoire et qui développent l'univers autour de ce fil narratif, et puis il y a ta méthode à toi qui est un peu différente, puisque effectivement on peut indépendamment lire les histoires, hein. Ce sont vraiment des périodes, des personnages, des époques différentes, des lieux différents également. Petit à petit, on voit l'univers se remplir et se complexifier. Tout se recoupe quand même. Mais on n'est pas obligé de les lire dans l'ordre.
Alors, Evanégyre, justement, est très expressément pas un cycle, justement. Ça vient aussi du fait que je suis lecteur, hein, comme tout le monde à la base, et je connais bien le sentiment quand on dit « Hey, regarde cette série, ça a l'air vachement bien, il y a 15 volumes. » Ok, c'est peut-être très bien, mais est-ce que j'ai le temps de me plonger dans 15 volumes ? Et est-ce que je vais aimer ? Et si jamais j'aime pas, j'aurai peut-être pas forcément la fin, parce que sinon elle est 15 volumes plus loin. Et en plus, avec la traduction, des fois, ces 15 volumes peuvent en devenir 30, voire davantage. Donc, j'avoue, je suis un lecteur, quand j'étais adolescent, j'étais un lecteur extrêmement exigeant et presque un mauvais élève au niveau de la lecture. C'est-à-dire que si un truc m'accrochait pas, il fallait que ça m'accroche assez vite. Donc, l'adage est un peu classique, c'est-à-dire qu'on écrit ce qu'on aimerait trouver quand ça n'existe pas. Et donc, j'avais très délibérément cette volonté de pas partir directement dans un cycle de 15 volumes, mais proposer plusieurs, au contraire, portes d'entrée possibles pour que le lecteur puisse voir, si ça lui aille, qui est malgré tout une histoire indépendante sur laquelle il aura la fin. Si jamais il n'a pas plus accroché que ça, il n'a pas besoin d'avoir 25 volumes derrière pour avoir la fin. Et il peut voir si ça lui plaît ou pas. Cela dit, après, comme ça se passe dans le même univers, certains lieux peuvent se retrouver, certains personnages peuvent se retrouver, certains événements aussi peuvent avoir parfois la déformation de l'histoire, mais ça, c'est pas très grave. C'est dans le contexte de l'histoire, ça fait sens, mais après, si on a envie d'aller voir davantage, on peut voir ce qui s'est vraiment passé ailleurs, avant, après, et donc du coup, ça devient une espèce de petit jeu bonus du deuxième niveau de lecture, qui est invisible normalement, qui est invisible pour le lecteur qui découvre pour qui c'est le premier bouquin, mais qui, quand, si jamais il en a vu davantage, j'aimais bien cette idée que finalement, plus on, soit on a le livre et on a le plaisir qu'on a avec, j'espère du moins, soit si on commence à en lire davantage, finalement ils viennent se renforcer les uns les autres et le plaisir est de plus en plus grand.
À quoi ça ressemble, Evanégyre ?
Ça dépend de l'époque. Evanégir est une planète qui est à peu près de la taille de la Terre, un peu plus grande. C'est une planète tempérée avec, avec ses régions arctiques, ses forêts, etc. Il y a donc, c'est quand même une particularité, c'est qu'elle est baignée par des champs magiques et que donc la magie est une réalité sur Evanégir, mais c'est une réalité au même titre qu'une force de la nature. C'est un champ d'énergie en fait. Et ce champ d'énergie, du coup, on peut refaire des trucs, forcément, puisqu'on est dans la fantasy. On peut éventuellement faire des... ça peut servir de source d'énergie, pour ceux qui savent s'en servir. On peut éventuellement faire des machines avec. Ou alors, certains qui peuvent avoir une forme de sensibilité à ces champs, ou qui peuvent travailler cette sensibilité, peuvent arriver à accomplir des actes magiques.
Dans La Route de la Conquête, qui est un recueil où il y a différents récits, on a justement l'occasion de découvrir différents aspects de cette planète, hein, différents paysages, différentes régions avec, on le voit, des décors très très différents. C'était aussi justement l'intérêt d'un livre comme celui-là, au-delà finalement de rassembler des textes qui avaient été peut-être publiés ou qui ne l'étaient pas encore. Voilà, de nous emmener finalement, je veux dire, presque aux quatre coins d'Evanégir.
Alors, il y avait de ça pour moi. La Route de la Conquête, j'en suis content, très content. Je suis content des bouquins, mais La Route de la Conquête pour moi me permettait de finalement démontrer par l'exemple un truc que je clamais haut et fort depuis des années, que je viens de dire, c'est-à-dire, oui, les récits sont parfaitement indépendants, vous pouvez attaquer par n'importe quoi, il n'y a pas de problème, et si vous les lisez, vous voyez cette couche en plus. Et en fait, La Route de la Conquête, bon, il y a donc dans La Route de la Conquête, il y a un court roman qui donne son titre au livre, et de mémoire, 4 ou 5 nouvelles en plus. Donc, le court roman et une des nouvelles étaient inédites. Ils sont inédits, ils sont retrouvables que dans ce bouquin-là, mais les autres étaient publiés en anthologie séparée. Donc, et il y avait cette exigence que chaque texte puisse être parfaitement indépendant et en même temps ait cette sous-couche de résonance les uns avec les autres. Et j'avais beau le clamer forcément haut et fort en disant « faites-moi confiance, il n'y a pas de problème », etc. La Route de la Conquête, c'était pour moi peut-être l'occasion de démontrer en petit vase clos dans le cadre d'un seul volume et peut-être de montrer est-ce que ça marchait ou pas. Puisque tous ces textes qui étaient censés être indépendants étaient finalement ramenés au même endroit et donc l'effet de résonance apparaissait. Et d'après les retours des lecteurs, ça marche, donc j'en suis très content. Et oui, donc c'est un peu aussi la démonstration par l'exemple, du concept et de l'indépendance entre ces récits, puisque ce sont des récits totalement indépendants, mais on retrouve, il y a le thème commun qui est le plan de conquête d'un grand empire et ses rencontres, ses heurts, ses parfois collaboration, quoique c'est quand même plutôt des heures, avec les peuples qu'il rencontre, puisqu'il est parti pour conquérir le monde et que le monde n'est peut-être pas forcément toujours d'accord.
Est-ce qu'il existe une cartographie d'Evanégir ?
Surtout pas.
C'est pour ça que je pose la question, c'est parce que
volontairement
la cuisine interne, on avait discuté un peu évidemment quand on a su qu'on allait faire cette table ronde ensemble et voilà, j'avais posé cette question-là et je me suis fait engueuler donc
non quand même.
Enfin voilà, j'ai eu la même réponse que ce que je viens d'avoir là. Mais c'est intéressant, développe un peu.
J'ai engueulé gentiment. Ça. Je suis engueulé avec douceur. Alors, il y a des cartes au début de Port-Dame et au début du premier volume des Dieux Sauvages, donc qui s'appelle La Messagère du Ciel, et des cartes locales sur l'histoire. Par contre, il n'y a pas de carte d'Evanégir, et c'est volontaire de ma part, parce que la représentation enferme, en fait. Et Evanégir, la construction d'Evanégir est pour moi vraiment un numéro d'équilibriste entre les grandes trames, les grandes forces génératrices historiques, géographiques, magiques, etc. que je me suis donné, que j'avais envie d'explorer, qui me donne le canevas. Et en fait, là-dedans, je veux me garder absolument toute liberté pour l'exploration. Donc, j'ai évidemment un sens global de là où sont les choses. Les continents principaux, mais d'une part, l'exercice de la cartographie est extrêmement compliqué parce qu'à un moment, la géographie d'Evanégir est complètement bouleversée et change. Donc déjà, ça voudrait dire deux cartes, c'est deux fois plus de boulot. L'idée d'une carte, c'est que je voulais pas, en tout cas, m'enfermer avec ça, en me disant je dois composer avec ces lieux-là que j'ai représentés. Ça fait partie de moi aussi pour moi de l'exploration et de la découverte. Tout ça évidemment reste cohérent et reste surtout cohérent avec les principes générateurs chronologiques, géographiques, les grandes forces politiques et historiques du monde qui, pour le coup, je connais, sont codifiés. Mais après, pour chaque récit, je laisse ses forces se décliner localement. Donc, il y a une carte magnifiquement réalisée par Roxane Millard dans La Messagère du Ciel, qui est la carte de la Revelle, parce que cet endroit-là est très précisément cartographié. Mais j'ai une vague idée d'où sont, d'à quoi ressemble le continent. Mais je sais qu'il y a des endroits que j'ai pas encore explorés et que, auxquels je viendrai peut-être un jour. Donc il y aura peut-être une carte un jour, mais il va falloir bosser.
Evan et Gir, moi j'ai découvert à travers. Ce qui était ton premier roman. Ça marche plus ? Ah, faut que j'appuie. Hop, La Volonté, donc à travers le premier roman de Lionel, qui était La Volonté du Dragon. Hein. Et puis a suivi La Route de la Conquête, Port d'âme et donc Les Dieux Sauvages avec ce premier tome. Déjà, on notera qu'au fur et à mesure, ça
devient de plus en plus gros.
Voilà, c'est ça. Ça enfle au fur et à mesure. C'est pas là où je veux en venir. C'est juste que quand on lit La Volonté du Dragon et La Route de la Conquête, il y a quelque chose qui frappe. On est dans un univers de fantasy qui est finalement assez atypique, puisqu'on a une présence de la technologie qui est assez surprenante pour un univers de fantasy où on est plutôt habitué justement à ce que la technologie soit ou très discrète ou totalement absente.
Alors, en général, quand on parle de fantasy ou quand on pense fantasy, on pense, et c'est normal, on pense à l'archétype. C'est-à-dire, on pense à Tolkien et on pense à l'archétype du médiéval fantastique. Donc, Moyen-Âge fantasmé, mythologisé ou parfois réaliste, si on pense au Trône de Fer, par exemple. Et le niveau technologique, c'est à peu près ça. Parfois, il y a des elfes, des nains et tout. Et c'est devenu, comme Tolkien a énormément influencé le genre, c'est devenu... par mécanique éditoriale et par aussi demande publique, c'est devenu plus ou moins l'archétype du genre. Mais le principe de base de la fantasy, en tout cas tel que moi je l'aime et tel que je la conçois, c'est que ça n'est jamais, c'est jamais que la cousine directe de la SF. Terry Pratchett d'ailleurs nous dit, de toute façon la science-fiction c'est jamais que de la fantasy avec des boulons. Dans les deux cas, on crée un univers... et on l'extrapole à partir d'un certain nombre de principes générateurs. En gros, on se pose des questions, et si il se passait telle chose pour la SF, et si on avait conquis l'espace, et si on pouvait voyager dans le temps, etc. Dans le cadre de la SF, ces présupposés, ils reposent sur quelque chose qui est plutôt, sens large, hein, je fais pas une grande définition du genre, mais vraiment à la louche, dérivé d'une certaine forme de science, en tout cas d'une certaine forme d'empirisme rationnel qui est cohérent avec notre monde. On peut partir des règles de notre monde, extrapoler et arriver à un univers de SF. La fantasy a exactement, pour moi, la même démarche intellectuelle, mais elle utilise un terreau qui est différent. Elle utilise le terreau du mythe, de la fable, du conte, de la mythologie. Elle utilise le terreau de la magie, tout simplement. Et avec ça, on peut créer des tas de trucs qui sont pas forcément médiévaux fantastiques. Ça vient de là, parce que, en général, c'est l'héritage du conte nous vient de ces époques-là. Mais à partir de là, on peut traiter la magie comme absolument toutes sortes d'univers. Et la fantasy le fait de plus en plus, elle fait beaucoup à mesure qu'elle défriche davantage de territoires et qu'on a pris une certaine perspective, une certaine distance avec l'héritage de Tolkien. Moi, ça m'intéressait de proposer une forme de fantasy qui se base sur des présupposés différents, mais qui reste ouvertement de la fantasy.
Ce qui explique pourquoi La Volonté du Dragon, c'était une bataille navale. Avec un armement alors qui n'est peut-être pas celui qu'on connaît typiquement dans notre réalité, mais en tout cas qui s'en rapprochait. On n'était pas justement sur un roman de flibustier, hein. On était vraiment sur un conflit qui pouvait rappeler des guerres modernes, etc. Et dans La Route de la Conquête, comme on le voit bien en plus sur la couverture, on a ces personnages qui assurent en plus la surpuissance de l'Empire et sa soif de conquête et sa réussite d'une certaine manière, au moins dans son avancée, qui est extrêmement présente et qui donne une puissance inégalée.
Alors l'Empire d'Azeroth est une période, en fait, il y a à peu près, donc dans ma chronologie, il y a à peu près 5 âges, dans 5 âges distincts dans la chronologie maître que j'aimerais explorer. Et l'Empire d'Azeroth figure exactement au milieu. Et l'Empire d'Azeroth, donc, c'est un empire qui a plus ou moins sauvé le monde autrefois et qui, fort de cet accomplissement, s'est dit, comme beaucoup d'empires, hey, mais si on commandait, ce serait quand même vachement mieux. Et donc ils disposent effectivement d'une espèce de technologie magique. En fait, ils ont réussi à apprivoiser l'énergie magique du monde pour en faire des machines. Donc des exosquelettes, des tanks, parfois même des exosquelettes impressionnants, plusieurs font la taille d'un immeuble. Et toute leur technologie est basée là-dessus. Une des tragédies de cette technologie, c'est qu'en général, elle est uniquement basée sur des trucs qui explosent. Donc ça oriente quelque peu le développement technologique vers quelque chose qui peut être potentiellement belliqueux. Je plaisante, l'Empire rigole pas des masses. En fait, ça vient à la base pour moi d'une certaine fascination pour l'Empire romain. Aujourd'hui, quand on considère l'Empire romain, on se dit l'Empire romain, grand modèle de civilisation. Ils nous ont filé un alphabet qu'on partage avec une grande partie du monde, c'est quand même vachement pratique. Ils ont apporté l'aqueduc, tant de choses. Cependant, à l'époque, c'était quand même une civilisation qu'on considère justement comme civilisatrice, mais bon, ils conquéraient les gens sans forcément tellement leur demander leur avis. Et cette espèce de paradoxe sur lequel une grande part du monde moderne se fonde, qui est d'avoir cette civilisation, considérée aujourd'hui comme une grande force et comme une forme de berceau de la civilisation moderne, ça restait une civilisation de conquête. Et donc, pour moi, il y a un paradoxe derrière qui me semblait intéressant à explorer. L'Empire d'Azeroth a un peu justement une forme de projet civilisateur. C'est l'âge qui est vraiment au centre de la chronologie et qui donc dispose de cette magie technologique qui lui donne un ascendant assez marqué sur les autres peuples du monde et qui donc va civiliser le monde coûte que coûte. Et donc ça me permettait aussi d'aller chasser allègrement sur les terres de la science-fiction en utilisant toutes les problématiques de premier contact. Même si on a des contacts avec des civilisations plutôt humaines, il n'y a pas beaucoup de non-humains sur Evanegir, parce que je pense que la nature humaine est suffisamment vaste pour offrir déjà une infinité d'explorations. C'était pas forcément la peine. Bon, il y a des ethnies un peu différentes, mais c'était peut-être pas forcément la peine d'aller forcément chercher des non-humains, même s'il y en a un peu. Donc voilà, ces problématiques de rencontres de peuples qui se comprennent pas forcément. Il y en a un qui veut clairement civiliser, avec des guillemets, l'autre. Est-ce que l'autre est d'accord? Comment ça se passe? Et comment, surtout, les individualités réagissent?
Et comment on en arrive pratiquement systématiquement à l'usage de la force pour civiliser?
Sachant que la doctrine de l'Empire, c'est on vous envoie des diplomates pour gérer les termes de votre reddition. Et si vous n'êtes pas d'accord, si on n'arrive pas à s'entendre sur les termes de votre édition, on envoie l'armée. Au bout d'un moment, ça finit toujours à un moment ou à un autre par envoyer les légions. Quoi. Mais ce qui m'intéressait beaucoup là-dedans, c'est que donc il y a un projet qui est que il y a une doctrine impériale. Donc Azeroth a la doctrine qui est tous s'uniront à la fin, c'est-à-dire pour sauver le monde de lui-même, il faut qu'on unisse la planète. Et ça, c'est la doctrine historique, c'est la doctrine culturelle de l'Empire, c'est là la culture dans laquelle les gens grandissent et même voient pour eux là-dedans une espèce de forme de sacrifice. Quand même, rendez-vous compte, donc l'énergie, les gens, pendant des siècles qu'on dépense pour essayer quand même ce projet grand civilisateur de la planète. Donc ils sont nés dans ce berceau culturel-là, et eux ne voient absolument pas le problème. Le problème, c'est quand même tragique quand il faut envoyer les légions et qu'on n'arrive pas à négocier la diplomatie tout de suite. Les termes de votre assimilation à l'Empire, c'est quand même regrettable, enfin, voyons.
C'est fou, ces gens qui ne se laissent pas faire.
Enfin, voyons. Et donc, ce qui m'intéressait beaucoup là-dedans, c'est aussi une question que qui me tarabuste, auquel je n'ai pas la réponse, et je pense que c'est pour ça que j'écris sur ces trucs-là, c'est quand on est dans le fil d'une dynamique historique, quand on est né dans une culture avec un certain nombre de présupposés, comme on l'est tous, on arrive à peut-être prendre de la hauteur? Comment est-ce qu'on arrive à émerger du flux de l'histoire, de la rivière qui nous emporte, rouleau compresseur de l'histoire, hein, cher à Shakespeare, comment est-ce qu'on émerge et qu'on arrive peut-être à surnager du truc, regarder, prendre du recul? Est-ce qu'on arrive, est-ce qu'on peut et comment on fait pour prendre du recul vis-à-vis du flot de l'histoire, du flot de la culture dans laquelle on est né? Est-ce qu'on arrive à l'interroger et qu'est-ce que ça entraîne? C'est pas tant la dynamique historique qui m'intéresse là-dedans, ce sont justement les gens qui sont chacun, tous, quel que soit le côté, un rouage de la dynamique historique et de l'époque dans laquelle ils sont. Et à mon avis, c'est là que les histoires sont intéressantes et c'est là qu'on trouve des histoires. C'est quelle est la réaction avec ça? Et est-ce qu'on accompagne? Est-ce qu'on défend? Est-ce que on se rebelle? Est-ce que on agit dans les interstices du système pour essayer de faire des trucs justes, tout en restant dans aussi le rapport entre la lettre et l'esprit de la loi? Et voilà.
Alors, c'est là qu'on va rentrer un peu dans le vif du sujet autour de ton travail sur Evanégyre, parce que si vous êtes ici, j'imagine qu'une bonne partie d'entre vous connaît déjà un petit peu le travail de Lionel, en tout cas a lu un des livres qui touche à Evanégyre. Vous n'avez peut-être pas forcément lu tout, et en particulier si vous n'avez pas lu La volonté du dragon ou La route de la conquête, ce qu'on est en train de vous dire doit vous surprendre un petit peu, parce que tout ce qu'on vient de dire n'apparaît plus du tout dans Port d'âme et dans La messagère du ciel. Il s'est passé quelque chose.
Il s'est passé quelque chose.
On ne saura pas quoi, parce que j'imagine que tu as un projet pour qu'on découvre un jour.
Je sais exactement ce qui s'est passé. Et une fois qu'on saura, il y a des tournures, des bouts de phrases et des tout petits éléments dans tous les bouquins en fait, qui sont relatifs à ça. Mais c'est totalement planqué.
En tout cas, il y a quelqu'un qui a appuyé sur le bouton « reset ». Et il y a un moment on est revenu complètement quasiment à zéro. Alors on va justement parler, on va respecter l'ordre chronologique d'Evanégyre, mais pas des sorties de tes livres, puisqu'on va s'intéresser d'abord à La messagère du ciel, qui est la plus proche finalement de cet événement particulier. Là c'est pour le coup on revient vraiment à une fantasy plus classique, puisque la technologie qui faisait la différence dans les deux premiers livres a totalement disparu.
Dieu est passé par là. Dieu a vu que l'Empire se détournait de son regard, S avec une majuscule. Quand je parle de Dieu, il faut imaginer les majuscules à chaque fois, quand je dis « ils »,« sont »,« mon », etc. C'est dans le bouquin, d'ailleurs.
C'est Dieu avec un X, hein, en plus.
Voilà, c'est Dieu avec un X, oui, tout à fait. Mais ce Dieu-là, l'Empire a offensé sa vision avec une majuscule, pour ça et vision, et a donc décidé d'effectivement d'appuyer sur le bouton reset et donc de détruire le monde dans un déluge de flammes, parce que c'est comme ça que les dieux procèdent, et donc de totalement ratisser et éradiquer l'empire qui porte à ce nom-là, à cette époque-là, le nom d'Azrethia, et de l'éradiquer totalement pour rappeler un peu l'homme à sa modestie, à son humilité, surtout face au regard du divin, et surtout face au regard de la morale, puisque l'Empire était corrompu, c'était jamais que c'était la déchéance. Et donc le monde est devenu un endroit où il ne fait absolument pas bon vivre, puisqu'on est clairement dans du post-apocalyptique. J'avais envie de m'amuser à faire de la fantaisie, mais de complètement importer sans vergogne les tropes et les concepts du post-apocalyptique et de mettre ça dans un monde de fantasy. Donc, la technologie a totalement disparu, la magie est devenue sauvage et dangereuse, puisqu'elle ravage les forêts inexplorées, les marais, tous les endroits où l'homme ne met pas le pied, qui sont en fait désignés par les habitants comme des zones instables, où en fait la magie peut devenir chaotique du jour au lendemain, faire muter les animaux, les gens, créer tout un tas de monstruosités, des conditions vraiment extrêmement difficiles. Il reste des endroits de zones stables, où les humains ont plus ou moins cartographié ça autrefois par une méthode d'essai-erreur un petit peu mortelle. Et voilà, et la civilisation se regroupe autour de ça. Et évidemment, prie Dieu, craint Dieu, un Dieu extrêmement, extrêmement vengeur, puisque c'est à cause de lui que le monde en est réduit là. Mais évidemment, le clergé dit que c'est pour le bien de l'humanité et que c'est pour enseigner à l'humanité une leçon.
Est-ce qu'on a le droit de dire un petit mot des dieux justement et de leur rôle dans l'histoire, ou est-ce qu'on spoile pas?
Y a le prologue qui voilà. La messagère du ciel est construite selon 5 actes. Et à la fin de chaque acte, on a un petit dialogue entre les dieux. Donc, y a Wer, le grand dieu, vengeur, le dieu de l'unique morale, le seul et unique dieu, bien entendu, à l'exception de son frère, qui a donc détruit le monde. Il y a son frère, plus ou moins jumeau, en tout cas son frère ennemi, qui s'appelle Aska, qui est l'autre dieu, qui lui est un dieu de chaos, qui apprivoise et qui absorbe et qui approuve totalement la nature totalement chaotique et sauvage de la magie, peu importe les monstruosités sacrées, etc. Finalement, c'est le grand égalisateur. Donc, au bout du compte, si tout le monde pouvait muter, devenir monstrueux, ça ne serait jamais que faire œuvre d'amour, puisque cela créerait l'égalité entre les hommes. Voilà, donc à peu près, ils sont à peu près aussi peu sympathiques l'un que l'autre, sauf qu'ils ont une manière différente de ne pas être sympathiques. Donc il y a un dieu mauvais, il y a un dieu méchant, mais je serais bien en peine de dire qui est qui.
Il y a quelque chose qui m'a frappé quand je l'ai lu, c'est que d'un seul coup, ça m'a rappelé La volonté du dragon. Parce que dans La volonté du dragon, on avait une histoire qui était un peu construite comme un jeu de stratégie, presque une partie d'échecs finalement, où le destin presque bouger les pièces hein, de cette manière-là. Et là, on retrouve ça, plus peut-être sous la forme d'un jeu de rôle, avec ces deux dieux qui s'amusent. Enfin, ils s'amusent. L'un a l'air de s'amuser un peu plus que l'autre, en tout cas. Bah voilà, à provoquer les événements et à bousculer les humains.
Bah, Ware est un peu à l'hommage de sa morale, à l'image pardon de sa morale. Il est strict, il est austère. Il connaît extrêmement bien le cœur des hommes, la puissance de la foi. Et Asuka, justement, est plutôt le dieu malin, chaotique, qui s'amuse du désordre et qui provoque constamment l'autre, le titillant, probablement pour le pousser à la faute, d'ailleurs. Et effectivement, les deux dieux, forcément ne vivant qu'à travers les adorateurs, se décident, entre autres parce que, en fait, dans ce monde-là, donc Ware et Asuka ont chacun des prophètes qui sont presque leur incarnation sur Terre. En tout cas, ils entendent la voix des dieux parler. Et Asuka s'en est trouvé un. Et donc, ça permet d'organiser le chaos et d'enclencher la conquête et véritablement la guerre et le conflit de l'un contre l'autre. C'est vrai que c'est un thème qui est un peu relativement récurrent parce que derrière ça, la question que j'ai fréquemment, c'est aussi la déshumanisation de toute nature de commandement. À partir du moment où l'on s'élève dans le commandement, dans toute conceptualisation de tout domaine que ce soit, mais c'est pas très grave quand vous parlez de bouquins, c'est un peu plus compliqué quand vous parlez de guerre, etc. Ça peut être un peu plus mortel. Personne ne s'est encore tué pour des bouquins, encore que peut-être que si. Mais il y a peut-être eu des provocations en duel. Mais donc, l'abstraction en fait, de la réalité, et en particulier de la réalité des peuples, des frontières, des cartes, entraîne mécaniquement pour moi une déshumanisation une déshumanisation de ces concepts-là, une perte de contact vis-à-vis du matériau humain. Et c'est quelque chose que je trouve assez terrifiant en fait. Donc là, c'est fait dans le domaine de la religion parce que ça me permet aussi de jouer avec ce concept-là concernant l'abstraction d'un. Alors c'est peut-être un peu moins mortel de prime abord, mais pour moi c'est beaucoup plus tragique de nature sur le terme humain. C'est l'abstraction de toute notion de salut, de bonheur sur terre. D'ambition, d'espoir d'évolution, et fréquemment la religion, en tout cas à travers l'histoire, s'est montrée coupable de ces choses-là. Donc ça me permet justement de traiter cet aspect de déshumanisation sous l'angle de la croyance, sous l'angle de la religion et sous l'angle finalement de la confiscation de l'espoir.
Alors, ce qui est très curieux dans la Messagère du Ciel, c'est qu'on sait déjà que l'Apocalypse a eu lieu, et pourtant pour les personnages, on a l'impression qu'elle est à venir.
Oui, parce que le monde est tellement âpre et difficile que le pire peut être toujours à venir. C'est-à-dire que effectivement le monde a été détruit. La doctrine, c'est quand même que bon, c'était une bonne chose parce qu'il fallait quand même que l'homme apprenne des trucs et que s'il vit tous les jours dans cette espèce d'enfer sur Terre, c'est bien pour l'empêcher de recommettre les mêmes erreurs. Mais bon, s'il y a encore des gens, on peut toujours détruire les trucs encore plus. Et effectivement, il y a une espèce, en tout cas chez les gens du commun, il y a une espèce de qui est très institutionnalisée par leur religion. Et c'est pour ça que ça me permet de mettre d'autant plus en avant des personnages de rebelles à ça. Ça permet de mettre en scène cette espèce de confiscation de l'espoir et derrière la crainte qu'on peut. Le pire peut toujours être à venir et le peu qu'on a encore peut être encore détruit davantage.
Il y a également les premiers germes, on va dire, d'un travail dont tu as déjà parlé un petit peu, mais qu'on va développer un peu parce que c'est encore plus net après dans Port d'âme. C'est la mythologisation, la création du mythe et de la mythologie qui l'accompagne. Il se trouve que dans les forces qui menacent la Revelle, il y a des espèces de monstre étrange, un peu mal foutu. Voilà, il y a une espèce de chaîne de transformation qui se passe un petit peu mal. On croit reconnaître certaines choses. Si
tout
vous regardez
fait.
Du côté de la couverture de la route de la conquête, par exemple. Hein,
tout à fait.
Effectivement, pour les gens que l'on croise dans la Messagère du Ciel, là, on est vraiment du domaine du monstre mythique, C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables d'expliquer ce qu'ils voient, finalement, concrètement.
Absolument pas. Alors ça fait partie des plaisirs que... Ça fait partie des plaisirs de lecteur que moi j'ai quand un univers me le fait. Donc du coup, je m'amuse à essayer de recréer cet effet à ma manière, qui est de voir la transformation des choses. Effectivement, dans la Messagère du Ciel, ce qu'ils appellent les abominations, démons, tout ce qui regroupe sous le terme un peu mal défini et probablement d'autant plus angoissant, c'est volontaire, de pandémonium, c'est tout ce qui concerne tout ce qui a été muté, touché par la magie. Et les fidèles d'Aska ont réussi un petit peu à contrôler vaguement ce phénomène chaotique et tout simplement comme vous le disiez, on retrouve dans la Messagère du Ciel une partie de l'arsenal impérial, mais de l'arsenal impérial qui a été entièrement, enfin l'apocalypse est passé par là depuis. Et un arsenal impérial complètement muté avec des je me suis beaucoup inspiré pour cette partie-là de ces démons, de toutes les expérimentations assez cauchemardesques, tout ce qui raterait aux biomécaniques en fait. Et donc on a des espèces d'êtres de mi-chair, mi-technologie, mi-ancienne technologie magique, entre autres parce que ces trucs-là ne fonctionnent pas et que, ma bonne dame, il faut bien une source d'énergie. Alors on va y mettre un être vivant qui va la fournir. Et s'il n'est pas d'accord, tant pis, mais de toute façon on éradique plus ou moins sa personnalité de manière à ne garder que la colère, forcément il est très énervé, donc tout cela stratégiquement et militairement c'est extrêmement sain. Oui, ça fait partie du dans l'univers du livre. Peu importe ce qui s'est passé avant, c'est le contexte opérant de l'histoire. Et de la même façon que quand on raconte une histoire dans notre monde, si on raconte un roman historique, on ne remonte pas 2000 ans en arrière, c'est absurde. On part du contexte actuel. Ça, c'est le contexte. Mais c'est pareil, si on va voir ce qui s'est passé réellement avant, on voit là peut-être une autre forme de vérité.
Ce qui est intéressant, c'est que ce que nous, on appelle mythe de cette manière-là, c'est une vérité qui finalement est passée par la même moulinette, hein, d'une certaine manière. Nous, on a cette position de lecteur où on sait que ça existait avant. Or, si c'est devenu un mythe, c'est parce que les gens disent « Non, mais ça n'a pas pu exister. »
Alors, c'est particulièrement le cas plus tard dans Port d'Âme, où effectivement, à l'époque de la Volonté Dragon et de la Route de la Conquête, encore une fois, quand on lit le bouquin, on entend parler des résurgences de cet empire mythique Azrethia, puisqu'on est bien bien après, là, on est après l'époque post-apocalyptique, le monde est en train de se rebâtir, et même c'est plutôt pas trop trop mal rebâti, on retombe dans une époque un peu pré-révolution industrielle, et il y a des résurgences, on parle de l'empire d'Azrethia, mais c'était tellement loin, et puis il y a eu les temps post-apocalyptiques entre les deux, ça entre presque dans le domaine du mythe. Presque de la religion d'ailleurs, et ça a été, il y a même certaines personnes qui disent non mais c'est pas possible, de toute façon c'est tellement dingue comme truc, ça a jamais pu exister, et en plus ça a été tellement déformé par le temps, mais ça a été aussi, je pense que l'histoire est fréquemment sujette à ça, je sais plus qui disait le présent est forcément défini par le monde dans lequel on vit est forcément défini par la connaissance historique. Mais ce qui est fascinant avec la connaissance historique, c'est que si vous découvrez quelque chose de nouveau dans le passé qui change la connaissance qu'on a du processus historique, on change le présent aussi. Parce que ça veut dire que le monde dans lequel on vit n'est pas le monde dans lequel on croyait, n'est pas le monde dans lequel on croyait vivre. Et les pouvoirs, quels qu'ils soient, les autorités, les gouvernements, bien sûr, les rois, les militaires et les religions, ont tout intérêt à s'approprier, à réécrire, c'est ce qu'on dit, hein, c'est l'histoire est écrite par les vainqueurs, ont tout intérêt à s'approprier l'histoire, volontairement ou pas, hein, d'ailleurs. Des fois, c'est simplement leur vision et leur culture qui vient travestir la vérité historique, la mythologiser, peut-être en chercher une religion. Comme le monde est amnésique aussi, on a besoin de se chercher quelque chose à en croire. Donc voilà, des colosses héroïques, bardés de fer, luttant avec ou contre des dragons, c'est des images qui peuvent frapper l'imaginaire. Et donc certaines choses sont mythologisées comme ça. Et pour moi, ça fait partie du jeu de l'univers quand on lit les histoires, c'est d'avoir cette espèce de seconde lecture. Le lecteur a presque... Voilà, j'ai presque envie de faire partager au lecteur s'il suit ma position de démiurge et de partager cette complicité avec lui en lui disant regarde, on va regarder ensemble comment est-ce que des fois les choses sont dégénérées, réappropriées, remythifiées, simplement par le fossé des siècles.
Il y a une démarche qui rappelle un peu ce qu'on peut avoir finalement autour des pyramides égyptiennes, des pyramides Inca, de Stonehenge, etc. Où finalement, avec notre regard lointain et le fait qu'on ait un peu perdu de vue ce à quoi ça pouvait servir, on finit par imaginer tout un tas de choses. Imaginer. J'ai mis un jugement de valeur en disant ça en plus d'ailleurs. Mais voilà, on leur attribue des possibilités tout à fait gigantesques.
Et exactement. Là, le côté amusant, c'est que si le lecteur veut aller voir comment ça s'est... Alors, je ne dis pas la vérité, parce que la vérité est extrêmement fluctuante, surtout dans ce genre de situation, mais au moins entendre, voir, vivre aux côtés des personnages les récits de ce... leur récit de ce qui s'est passé à cette époque-là, il peut. Donc il peut avoir une version plus proche des faits, beaucoup, beaucoup plus proche des faits. C'est un des jeux dans la roue de la conquête où, en fait, chaque texte est introduit par un texte devenu mythologique, sorte de forme de Bible, qui, en fait, a été, comme la vraie Bible d'ailleurs, composée à partir de tout un tas de fragments pour en faire un corpus qui devient un corpus quasi religieux, mais qui a été écrit et construit des siècles après les événements, en fait. Et je me suis beaucoup amusé, et j'espère que ça amuse aussi le lecteur, de voir sur l'espace d'une page, justement, ce fossé des siècles. Je pense que la fantasy aussi se fonde beaucoup. Toute l'essence de la fantasy, pas toute l'essence, mais une grande part de l'essence de la fantasy et de son plaisir se fonde justement sur cette espèce de vertige temporel entre les temps présents et l'immense abîme des siècles qui a pu se passer avant. Et voilà, Vanégyre étant très vaste, ça me permet de mettre ce petit élément presque dans chaque texte et dans chaque livre, même quand on ne connaît pas le reste. Parce qu'il y a toujours eu un avant, bien sûr.
Tout ça nous amène à Port-Dame, justement, où, tu l'as dit, il y a déjà une évolution qui s'est produite, qui s'est passée. Il y a différents aspects dans Port-Dame, mais le moteur, c'est quand même un secret qui va être découvert. Et puis, c'est quand même aussi ce retour progressif, petit à petit, sur des aspects très particuliers, de cette magie et de ce minerai très particulier qui était finalement presque une des pierres angulaires d'Asrette, qui a été redécouverte, on peut dire ça ?
En tout cas, elle est plus considérée comme étant, je crois, si je me rappelle bien, ils en parlent dans le tome 2 de La Messagère des Dieux Sauvages qu'ils sont en train d'écrire. Je crois qu'ils l'appellent la craie des fous. Donc c'est une pierre un peu calcaire qui s'appelle la Dranaklase et qui sert qui sert en tout cas dans les premiers temps de l'Empire d'Azeret de pierre jeu de mots, c'est une roche, une pierre angulaire à toute cette technologie là parce qu'en fait elle a juste une particularité on ne sait pas trop d'où ça vient, certains disent que c'est des anciens eaux de dragons qui ont sédimenté, etc. Il n'empêche que cette roche a un énorme potentiel magique. Elle accumule énormément l'énergie magique en son sein, donc ça devient un minerai pour alimenter les machines magiques, ça devient quelque chose qui plus tard peut générer des anomalies magiques, et puis après, ça peut également redevenir quelque chose dont on peut... sachant que ça synthétise juste de l'énergie, ça fiche de l'énergie, on peut en s'en servir pour plein de trucs. Certains, d'ailleurs, dans Port-Dame, s'en servent pour faire une espèce de drogue une espèce de super LSD qui vous fait voir à peu près tout le temps et l'espace en même temps.
C'est du plutonium, quoi.
Il y a un peu de ça. Il y a en fait, à travers le fil de l'Artec, donc cette magie technologique, il y a très clairement un parallèle. Un peu symbolique avec la puissance de l'atome, clairement.
D'ailleurs, tu disais pour Port-Dame qu'on est dans un univers qui est pré-révolution industrielle. Effectivement, on est là aussi dans quelque chose où tu mélanges les archétypes. Hein. On pourrait être tout à fait dans un univers steampunk, ce que rappellent déjà un peu les exosquelettes de la route de la conquête, par exemple. Mais on est justement à un moment qui est plutôt alors un développement de l'électricité que de la vapeur hein, dans Port-Dame.
Alors la vapeur finalement elle était avant puisque cette Dranaklase sert à faire ce que l'Empire appelle des cristaux vapeurs en fait, qui sont des cristaux qui subliment cette roche et libèrent une espèce de vapeur magique surchauffée et sur pression qui permet qui a un énorme potentiel de déplacement mécanique et énergétique. Et c'est vrai, là, en gros, comme les secrets de l'Empire se sont perdus, bah, le Graal pour tous ces gens-là, et notamment il y a pas mal d'industriels dans Port d'Âme qui sont tous à la recherche, c'est un peu une sorte de pierre philosophale, du secret de la conversion dranique, c'est-à-dire comment est-ce que l'Empire faisait pour libérer le potentiel magique qui était contenu dans la Dranaclase. Et comme c'est une technologie qui a eu... Je m'amuse, il y a un jeu aussi sur les forces qui génèrent l'histoire. C'est vrai qu'il y a presque un petit jeu uchronique qui est de se dire que dans Evanegir, à cause de l'Empire, le cheminement technologique a suivi un autre la technologie a suivi un autre chemin qui est pas le chemin de la machine à vapeur, qui est cette espèce de machine à vapeur un peu magique basée sur la conversion dranique. Et donc, finalement, toute l'énergie, toute la technologie est biaisée par ça. Et même l'après, puisqu'on a eu quelque chose qui marche, on va essayer de refaire marcher ce truc-là, même s'il y a des tas de gens qui disent que c'est plus possible, plutôt que de suivre autre chose. C'est pour ça aussi que le développement technologique est perverti et ralenti. C'est qu'il y a le poids de cette figure tutélaire. Juste un mot sur le steampunk, parce que c'est assez amusant pour moi. Que pour moi, je, notamment dans l'époque de la route de la conquête et de la volonté du dragon, je me suis toujours considéré comme étant les deux pieds joints dans le steampunk. Il y a des rouages, il y a du cuivre, il y a des machines avec des gros cadrans, etc. Il y a toute l'esthétique du steampunk pour moi. Il y a des machines à vapeur, je veux dire, les machines sont alimentées par des cristaux vapeur. Mais paradoxalement, ces bouquins-là, ce qui pour moi reste toujours un peu mystérieux, ne sont jamais identifiés comme une steampunk. Et j'ai fini par apprendre pourquoi. C'est parce que ce n'est pas situé dans une histoire parallèle. Et apparemment c'est un prérequis de la définition stricte du genre, alors que ce qui est rigolo, c'est que pour moi je me suis vraiment totalement inspiré de ces trucs là
on voit aussi l'évolution pas seulement des histoires, mais donc de des contextes dans lesquels ils se déroulent, et finalement ça joue aussi sur la manière dont tu travailles tes récits. On l'a dit, que ce soit la volonté du dragon ou la route de la conquête, on est déjà plus dans un univers qui effectivement rappelle la science-fiction. Les dieux sauvages, on est plus dans de la fantasy épique un peu plus traditionnelle.
Et, très sombre aussi.
Ouais. Et très sombre. Et puis Port d'Âme, on a vu cette discussion l'année dernière d'ailleurs, pour moi on est carrément dans un roman romantique.
Et je suis très content parce que c'est une étiquette qui me fait extrêmement plaisir. Oui, clairement.
Au sens littéraire romantique, hein, entendons-nous
oui.
bien.
Hein. Oui, oui, oui.
n'allons pas faire croire que d'un seul coup. Non, c'est pas. Il y a pas beaucoup d'amour d'ailleurs dans le livre.
Il y a une histoire.
Une histoire
qui fait voilà. Qui, mais c'est pas le focus principal de l'histoire, même si elle a beaucoup d'importance. Oui, parce que c'est vraiment une histoire beaucoup plus intimiste. Il y a plein de choses dans Port d'Âme. Déjà, il y avait pour moi la volonté très claire. De dire que après la volonté du dragon ou la route de la conquête, puisque Evanegir est un univers beaucoup plus vaste, je voulais pas que ce soit l'univers de l'Empire avec des exosquelettes à vapeur. Je voulais vraiment introduire une rupture totale en me mettant dans une époque complètement différente où ce qu'on a vu jusqu'ici entrer dans la catégorie du mythe, et même il y en a certains qui vivent très bien sans et qui disent que ça n'existe pas, et d'être au contraire sur un roman beaucoup plus intimiste. Parce que voilà, ça revient à l'aspiration du planète Opéra, c'est qu'une planète, il se passe des tas d'histoires à sa surface et qui peuvent toucher des nations, des peuples entiers ou le destin d'une personne et d'une poignée d'entre elles, mais ça ne la rend pas moins importante à l'échelle des choses. Et oui, dans Port d'Âme, la magie est beaucoup plus intimiste. On est surtout centré autour d'une ville donc, qui est un port franc qui s'appelle Aniagrad et qui est une ville qui est entièrement tout entière tournée vers le commerce et qui d'ailleurs, grâce à sa puissance économique, arrive à rester indépendante et tient à l'écart les trois nations qui voudraient bien s'approprier, mais ils n'y arrivent pas parce que les mecs d'Aniagrad sont plus malins et arrivent toujours à monter les uns contre les autres sur le principe du prince de Machiavel de diviser pour mieux régner. Et donc cette ville a juste une particularité de fantasy qui est que dans cette ville-là, on peut acheter des souvenirs, en fait. Et ça devient une sorte de métaphore du trajet du personnage qui est à la recherche de l'ascension sociale, à la recherche de la reconstruction de la maison noble qu'il a perdue, puisqu'il a été condamné aux galères pour payer la dette de sa famille. Et ça devient aussi, pour moi, à travers son trajet, symbole de son parcours, symbole de sa réflexion sur lui-même, de son passé, et à travers ça, symbole de la réflexion sur tout ce qui est venu avant et tout ce qui a été perdu, toute l'amnésie que le monde a à cette époque-là. Et je pense, oui, pour le côté romantique, il y a un relatif mal-être à cette époque-là, qui est que c'est un monde entier qui se réveille d'une soirée trop arrosée, quelque part. C'est un monde entier qui a la gueule de bois, qui sort de temps post-apocalyptique. C'est un monde qui est amnésique et qui est désespérément à la recherche de son passé, de son identité, et même de croyances, et qui ne sait pas en quoi croire, qui est à la recherche de ses racines, quelque part.
On va quand même terminer cette table ronde en parlant un peu plus spécifiquement de la Messagère du Ciel, parce que c'est la nouveauté qui arrive quelques jours avant les Imaginales, donc j'imagine qu'on n'est pas forcément très très nombreux à avoir encore eu le temps de s'y plonger et de le lire en entier, parce qu'en plus c'est un bon pavé. Quelle est un peu justement la situation lorsque démarre le roman, ce premier tome en plus d'une trilogie, hein.
Alors, j'insiste sur le fait que donc les trois tomes de la trilogie forcément sont liés les uns très étroitement les uns avec les autres, mais qu'on peut parfaitement attaquer par n'importe quoi. On a parlé des liens beaucoup, hein, mais chaque livre est vraiment fait pour être indépendant. On peut démarrer par ce qu'on veut. Quand on me demande c'est quoi l'ordre de lecture, ma réponse c'est ça dépend, qu'est-ce que vous aimez lire. Si vous aimez lire un roman plus intimiste, attaquez par Port d'âme. Si vous voulez de la fantaisie plus épique, Batinette Steampunk, La Route, et sinon La Messagère. C'est vraiment une question de goût, parce que c'est des bouquins assez différents les uns des autres. Alors, donc dans La Messagère du Ciel, on est après la destruction du monde par le grand dieu Wer, garant de l'unique morale. Et donc dans ce monde post-apocalyptique extrêmement âpre. Et on suit plutôt, donc c'est vraiment une fantaisie chorale avec 7-8 points de vue dans les sphères du pouvoir, de l'autre côté des montagnes, là où on ne sait pas trop ce qui s'y trouve, et des roturiers, plutôt même des parias, c'est-à-dire on suit Meria, tout est uni par l'histoire principalement de Meriane, qui est la demoiselle en couverture, qui, confrontée à cette société qui prêche la haine des femmes, puisque la religion établit les juges comme étant responsables de la chute du monde, même si Dieu a détruit le monde, mais bon, cette religion n'est pas à cette incohérence-là près. Et donc, confronté à devoir faire comme tout le monde, c'est-à-dire se soumettre à un mari qu'on va lui choisir, faire tourner la ferme pour le Seigneur, et se soumettre et vivre libre, mais dans le danger de la zone instable, ni une ni deux, à 14 ans, elle dit « Vous êtes bien gentils, mais allez tous vous faire voir, moi je vais vivre libre. » Sauf que les dieux sont malins,
taquins,
voilà, malins et à tous les sens du terme, et que, sans trop dévoiler l'intrigue, Meriane va se retrouver plus ou moins forcée de se réintéresser de très près à la lutte entre Wer et Aska, entre autres parce que Aska est aux portes de la Revelle et que la Revelle n'est pas au courant et que la catastrophe guette. Elle va se retrouver de façon extrêmement assez désagréable, embringuée et au centre du conflit. Mais bon, pour moi c'était un grand plaisir d'écriture, c'est que Meriane étant un personnage extrêmement rebelle et qui a la langue bien pendue et qui déteste cette religion, qui a une haine viscérale de cette religion et de ce dieu-là qui veut lui entendre dicter comment elle doit vivre, à partir du moment où elle commence à avoir éventuellement la possibilité de s'entretenir avec lui, elle en profite pour lui dire tout ce qu'elle a sur le cœur et elle n'en rate pas une en général.
Il y a des dialogues assez savoureux effectivement entre le personnage et le dieu qui s'en sert de réceptrice.
Ouais, j'avoue que c'est pour moi un grand plaisir et c'est très amusant à écrire parce que ça me permet de voilà, Beriane est un personnage qui est très dynamique, très positif, qui supporte pas la souffrance des autres, mais qui est extrêmement très impatient et qui ne supporte pas toute forme d'oppression quelle qu'elle soit. Et pour elle, la forme d'oppression suprême, c'est justement cette religion-là. Donc, elle va pas forcément se laisser faire, ou en tout cas, peut-être va faire les choses, mais elle va les faire selon ses termes. Et donc, c'est à la fois très amusant à écrire, et en même temps, ça me permet aussi, parce que j'essaye toujours dans mes bouquins, modestement, d'ouvrir un peu des portes, des questions, simplement de partager avec le lecteur des questions que je me pose. Et là, ça porte beaucoup sur les questions de religion comme système de stabilité sociale, pour le pire, mais aussi parfois pour la nécessité, je ne vais pas dire pour le meilleur, et aussi toutes les contradictions qui... moi, j'ai fait le catéchisme quand j'étais jeune, et toutes les contradictions qui, moi, me posaient question quand j'étais gamin. Et ça permet justement de jouer avec ces thèmes-là sur la nature du péché, la nature de la foi, la nature du mal, la possibilité que le mal existe dans un monde qui est normalement géré par un Dieu bienveillant. Comment toutes ces questions-là, ça donne la possibilité à Marianne de les mettre en scène, y compris par l'exemple quand elle est confrontée à l'horreur, au mal, et que Dieu lui dit « mais j'ai fait ça pour votre bien ». Donc forcément, c'est des questions qui la laissent pas indifférente, et y compris dans l'action.
Il y a un jeu aussi dans ce roman sur les figures historiques qu'on connaît bien. Il y en a quand même quelques-unes qu'on reconnaît. Hein, il y en a une qui est très évidente, qui nous touche un petit peu aussi, nous Vosgiens, dans ce coin-là, hein, puisque voilà, côté de Don Rémy, si vous voyez ce que je veux dire. ça aussi, ça a été quelque chose d'assez amusant, j'imagine, d'arriver à retranscrire ces figures-là que tout le monde connaît dans un univers totalement différent.
Il y a un grand jeu amusant, ça c'est le petit bonus aussi là, pour le lecteur qui connaît vraiment bien, parce qu'il y a à peu près tout dedans, sauf les Anglais, parce que loin de moi l'idée de le dire, et j'ai des racines anglaises, que les Anglais sont des démons atroces biomécaniques, même si certains ont voté pour le Brexit, alors peut-être eux à la rigueur. Mais je rends l'hommage, de toute façon la citation en exergue, c'est une citation de Jeanne d'Arc qui dit « Dieu premier servi ». Alors elle le disait d'une certaine manière, dans le cadre de la série ça a une connotation totalement différente. Mais oui, la figure de Jeanne d'Arc m'avait beaucoup, m'a toujours beaucoup intrigué, parce que quand même, si vous prenez le truc au premier degré, c'est une jouvencelle qui vient sauver le monde, rebooter l'anglais hors de France, mettre le dauphin sur le trône, remet de l'ordre dans le royaume, au nom de Dieu, et elle finit brûlée par les mêmes qui se réclament de Dieu. Et ce paradoxe-là est quand même, j'ose pas dire, intellectuellement savoureux quand même. Donc c'est quelque chose qui, ça flatte un peu le révolté en moi. Et donc c'était une histoire que j'avais envie d'aborder, mais avec l'épopée de Jeanne d'Arc se retrouve en filigrane à travers effectivement l'épopée de Marianne. Certains, si on connaît vraiment bien son parcours, certains épisodes, évidemment extrêmement réécrits, extrêmement changés, et puis c'est surtout son parcours à elle, mais le contexte est entièrement différent, le monde est entièrement différent, et puis il y a des tas de figures qui sont absolument pas historiques. Mais c'était assez... moi, je vois surtout un personnage comme Jeanne d'Arc, et comme d'autres, c'était un travail un peu que j'avais fait aussi sur Léviathan, même si ce sont des figures historiques, ça revient un peu à ce qu'on disait sur le poids de l'histoire, même si ce sont des figures historiques, ce sont des figures qui ont été forcément mythologisées avec les âges et à travers la version et l'idée que chacun en a. Surtout ces grandes figures historiques dont on entend parler depuis qu'on est tout gamin, et que quand on est môme, on ne fait peut-être pas encore très très bien la différence entre le conte, la fiction, l'histoire, les événements réels. Et j'ai vraiment, en fait, plus que suivre, ce n'est pas une fantaisie historique du tout, c'est de la fantaisie dans le royaume de Rovell, même s'il y a certains, même si voilà, il y a une grande place forte à un moment qui s'appelle Loered, qui est un parallèle un peu mythique avec Orléans, mais tout ça est entièrement repris, remythologisé. Pour moi, je considère que c'est un terreau mythique plus qu'un terreau historique, et c'est ce qui m'intéresse donc dans tout ça, c'est les résonances mythiques plutôt que les résonances purement historiques. C'est pour ça que je ne fais pas de fantaisie historique du tout. C'est vraiment ce que ça évoque. Et revenir à cette racine-là, à cette expérience je ne dis pas ça au terme religieux, hein, mais à cette expérience du sacré, c'est-à-dire à cette expérience du mythique, à ce souffle que ça peut invoquer et évoquer chez nous, et revenir non pas à la racine historique, mais à la racine du mythe, à la racine de ce que... du rêve que ça peut évoquer.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, forcément, on est influencé par cet aspect-là, que le jeu du découpage de l'histoire fait qu'on s'arrête à un moment très important dans tout cela, même s'il n'est pas forcément d'ailleurs, il se déroule pas forcément d'ailleurs comme on aurait pu s'y attendre, un peu comme l'image d'Épinal, en tout cas la mythologisation de notre histoire, ça se déroule un petit peu différemment, mais il y a quand même ça, hein, il y a quand même un des événements clés qu'on attendait de voir.
Il y a certains motifs, mais en fait, quand certains vraiment passages très connus qui font partie du mythe de Jeanne d'Arc me sont apparus, parfois ils me paraissaient riches de sens, mais je me suis justement amusé à en faire quelque chose presque de totalement inverse, ou en tout cas les explications n'ont strictement rien à voir avec ce que l'histoire en dit.
Et maintenant, on attend de savoir justement comment ça va évoluer, comment la suite va se passer. Est-ce qu'on va conserver justement ce parallélisme jusqu'au bout? Est-ce que Marianne va se détacher de l'image de Jeanne d'Arc qui lui est accolée? Ben voilà, ça ce sera, j'imagine, dans la suite des événements. On arrive au terme de ce café littéraire. On aurait encore énormément, infiniment de choses sans doute à dire sur l'univers d'Evan Hégyre. On va continuer à le voir croître, grandir et embellir. Et puis, on aura, j'imagine, au fur et à mesure, pas mal de questions, de réponse aux questions qu'on se pose quand on a lu la totalité des romans qui s'y déroulent. C'est encore un univers que tu as envie de creuser, de construire même encore.
Oh oui, beaucoup. Déjà, je suis vraiment impatient d'arriver à la fin des Dieux Sauvages parce qu'il y a des tas de réponses dans cette série que j'ai vraiment énormément hâte de donner dans le cadre de l'histoire. Mais il y a aussi pas mal d'éléments sur la méta-histoire qui va autour. Même si, encore une fois, c'est un ensemble totalement indépendant. Et je disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de lire les autres pour apprécier celui-là. On n'a pas besoin de lire celui-là pour apprécier les autres non plus. Mais oui, j'ai une blague récurrente avec mon éditeur en lui disant qu'un jour, je lui fournirai une décalogie de bouquins de 1000 pages. C'est un univers sur lequel...
Fais gaffe, tu vas monter une...
C'est un univers que je continue à développer. Par exemple, dans l'anthologie des Imaginales l'année dernière, j'avais proposé une nouvelle, encore une fois indépendante de cet univers-là. Il y a énormément de choses et de périodes que je n'ai pas encore abordées et que je voudrais aborder et que je continuerai à creuser. Ce que je sais, c'est que comme je veux garder l'équilibre entre l'exploration consciente de ce que je sais et l'exploration de ce qui me reste à découvrir dans le détail des cartes, dans le détail des recoins de l'histoire, etc., où c'est là où les histoires intéressantes vont fleurir et qui vont en retour irriguer le contexte vaste. Je sais que je fais une pause régulièrement entre chaque cycle narratif de manière à me donner le temps et l'envie d'aller explorer autre chose pour apporter une nouvelle pierre, encore une fois, indépendante.
Vous l'aurez compris, vous avez donc des portes d'entrée différentes pour arriver sur Evan Hégyre et découvrir cet univers. Quand je dis des portes différentes, c'est à la fois dans les récits, dans les contextes historiques, sociologiques, géographiques, également littéraires, parce que voilà, j'imagine qu'il y a aussi un public qui est peut-être un peu plus intéressé par la fantasy épique, qui aura peut-être un petit peu plus de mal avec Port d'Âme, ce qui est assez normal et assez logique. Mais en même temps, voilà, vous l'aurez compris, tout est cohérent, tout est relié, même si ça n'est pas forcément indispensable pour la compréhension de votre lecture. Merci en tout cas Lionel d'avoir joué le jeu et d'avoir essuyé les plâtres de ce café littéraire. On espère qu'on vous aura convaincu et que dans les prochaines années aux Imaginales, d'autres auteurs se plieront à cet exercice un peu particulier, il faut quand même le dire, de la découverte de leur univers.
Merci à toi, merci à vous d'être venu et je veux dire juste un mot pour remercier mon éditeur Critique qui m'accompagne avec fidélité et enthousiasme dans ce projet déraisonnable.